lettres coréennes. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres coréennes. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Chang Eun-jin, le journal d'Anna.
Anna était sonneuse de cloches dans l'église catholique de notre village. Cela pourrait rappeler à certains un personnage d'un roman de Victor Hugo, le pauvre Quasimodo, qui restait enfermé en haut du clocher de Notre-Dame de Paris à cause de sa laideur. Mais notre Anna, comme son prénom nous laissait supposer, ressemblait plus à l'héroïne de l'histoire, Esmeralda, la jeune gitane. Cette fille de 11 ans, d'une beauté froide, aimait errer dans le quartier comme une vagabonde sur son vélo rouge.
Ce récit fait partie d'un recueil de nouvelles de Chang Eun-jin publié en 2020 sous le titre « Votre endroit isolé ». L'histoire se déroule dans une commune qui abrite une église vieille de 72 ans. La secrétaire, qui s'en occupe depuis 30 ans, considère le tirage de cloches comme l'une de ses fonctions les plus importantes. Mais un jour, quelques minutes avant la messe de Noël, elle est soudainement prise de vertige en tirant sur la corde attachée à la cloche. Elle la laisse s'échapper de sa main. La cloche sonne différemment que d'habitude et Anna, qui se trouvait à proximité, court vers la vieille dame et finit de sonner la cloche. Depuis lors, c'est Anna qui s'occupe de la cloche à la place de la secrétaire de l'église. La femme âgée se montre reconnaissante de ce que la petite fille a fait pour elle. Elle lui dit qu'elle offrira tout ce qu'Anna désire. Des stylos. Je veux des stylos qui ne s'effacent pas même sous la pluie.
Chaque jour, Anna arrivait à temps à l'église, dévalant la colline escarpée sur son vieux vélo rouge. Il fallait sonner 10 coups sur la cloche 30 minutes avant la messe et encore 10 coups 1 minute avant la cérémonie. Alors, elle devait attendre 29 minutes entre les 2 séries de coups. Elle comblait ce vide en parcourant et observant méticuleusement le quartier sur son vélo. Une fois qu'elle avait sonné la cloche pour avertir le début de la messe, elle quittait furtivement l'église et rentrait chez elle. Bien qu'on lui ait confié une tâche importante dans l'église, elle n'était pas pratiquante. Ses parents, fervents catholiques, l'avaient fait baptiser dès sa naissance et son nom de baptême Anna était également devenu son nom civil. Or, elle n'allait même pas à la messe depuis 1 an. Lorsque la mère supérieure lui a demandé pourquoi elle ne venait plus, la gamine a immédiatement répondu
« Je n'ai pas d'argent ».
Elle a avoué qu'elle avait honte pendant le court laps de temps où elle devait baisser les yeux et rester assise alors que d'autres enfants mettaient des offrandes dans le panier de collecte devant l'autel avec leurs mains poliment jointes. C'était la première fois que la fille discrète a répondu à une question. Peut-être qu'elle voulait s'expliquer ou s'excuser d'une manière ou d'une autre.
Pourquoi donc Anna, qui ne vient pas à l'église, a-t-elle accepté le poste de sonneuse cloche? Voici Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui répond à cette question.
L'auteur a attribué à Anna le travail de sonneuse de cloche sans doute parce que ce poste nous permet de déceler la présence de cette petite fille. Lorsqu'elle tire sur la corde reliée au battant, les gens se rendent compte qu'elle est là, en train de sonner la cloche. Je pense qu'Anna, une fille solitaire, a accepté la proposition de la secrétaire de l'église pour résister à sa propre solitude. Anna avait toujours l'air maussade et cynique, même lorsqu'elle faisait du vélo ou sonnait la cloche. Son regard indifférent, ses lèvres étroitement fermées, son visage de pierre comme quelqu'un atteint de paralysie faciale, ainsi que son vélo rouge lui servaient de signes caractéristiques.
Il y a un an, les parents d'Anna sont décédés dans un accident lorsqu'ils voyageaient pour célébrer leur 10e anniversaire de mariage. L'oncle de la fille a alors pris toute la somme qu'ils lui ont laissée en héritage et s'est enfui aux États-Unis. C'est à travers le journal d'Anna que les habitants du quartier ont appris cette histoire tragique.
En fait, ce n'était pas dans un carnet qu'Anna tenait son journal. Si elle versait tout son chagrin dans un cahier, elle devrait en utiliser la moitié juste pour une journée. Bien qu'elle n'ait pas eu l'argent pour acheter un agenda, l'envie d'écrire quoi que ce soit devenait de plus en plus compulsive. Ce qu'elle a choisi à la place d'un cahier était donc notre village. Notre commune était vieille et minable, mais pour elle, c'était un endroit avec des possibilités aussi riches qu'une carte du monde. Les potentiels résidaient par exemple sur les murs d'un immeuble, sur les bancs de parc en plastique, sur les poteaux d'une barre fixe dans un terrain de jeu, sur les poteaux électriques, dans les bennes de collecte d'ordures ou encore sur les portes en acier ou en verre. N'importe quoi avec une surface lisse et uniforme lui suffisait.
C'est l'agent immobilier, un certain Yoon, qui a été le premier à avoir découvert le journal d'Anna. À l'époque, ce monsieur était tourmenté par de mauvaises rumeurs à son sujet. Un jour, il a trouvé les gribouillages laissés sur le mur de son immeuble. Il était en train de les effacer lorsqu'il est tombé sur des lettres qui lui étaient familières, « Monsieur l'agent immobilier ». C'est alors qu'il s'est mis à lire ce qui était écrit et qu'il a obtenu un indice sur l'identité de celui qui avait fait circuler les rumeurs. « Je voulais acheter un paquet de chips avec l'argent qui m'a resté après avoir payé le dentifrice, mais j'ai laissé tomber cette idée. » C'est M. Che, le propriétaire de la supérette Chinmi et le meilleur ami de M. Yoon depuis plus de 20 ans, qui avait fait courir ses ouï-dire. Et Anna a écrit sur le mur ce qu'elle avait entendu lors de son achat chez M. Che. Le journal d'Anna était découvert à différents endroits du village. Tard dans la nuit, j'ai vu un garçon et une fille en uniforme scolaire s'embrasser et se peloter sur le banc du parc. J'ai senti mon cœur s'emballer comme si j'avais fait quelque chose de mal, mais curieusement, je ne pouvais pas m'arrêter de les regarder. Pris de colère, le vieux célibataire de la maison voisine a donné un coup de pied à sa mère. La dame a crié de douleur, mais il n'a pas arrêté de la battre. J'ai vu la coiffeuse du salon de coiffure moderne donner à manger à un chien abandonné. Il a remué la queue dès qu'elle s'est présentée devant lui et a dévoré la nourriture. J'espère qu'elle l'adoptera. J'ai entendu des gémissements étranges venant d'une fenêtre ouverte du premier étage alors que je passais devant une maison en briques rouges. Je crois que la dame était très malade. J'aurais peut-être dû appeler les secours. Le journal d'Anna retrouvait partout dans le quartier des traits détaillés et directs. Certains réprimandent la fille tandis que d'autres essaient de l'amadouer pour qu'elle cesse d'écrire, mais en vain.
Les gens ont découvert beaucoup de choses grâce au journal d'Anna. Curieux de l'identité des élèves qui s'étaient caressés dans le parc, les parents ayant des enfants au lycée suspectaient leurs propres filles et fils. Ceux qui avaient des préjugés contre la coiffeuse à cause de son maquillage épais se montraient désormais favorables. À chaque fois qu'ils apercevaient une femme vivant au premier étage d'une maison en briques rouges, ils ricanaient en cachette et ils évitaient le vieux célibataire en lui jetant un regard désapprobateur, convaincu de sa mauvaise réputation. De nombreux habitants ont eu des ennuis à cause des archives d'Anna sur ce qui se passait dans le village, mais certains ont dit qu'ils méritaient d'être punis pour leurs propres comportements immoraux.
Petit à petit, les villageois ont commencé à chercher le journal d'Anna à chaque fois qu'ils avaient besoin de preuves ou d'excuses. C'est grâce à ce que la fille a écrit que la femme du propriétaire du restaurant de poulet frit Coco a prouvé son innocence lorsqu'elle a été faussement accusée d'entretenir une liaison et qu'un garçon qui a été soupçonné d'avoir volé dans une papeterie a pu être blanchi.
Le journal d'Anna a fait naître sans cesse des rumeurs et s'est retombé. Il y a des choses qui auraient dû rester ignorées, mais la petite fille dévoilait les secrets du village à travers son journal, qui devrait rester ironiquement le plus secret de tous les documents. Des rumeurs ont continué à circuler pour plonger progressivement le village entier dans le chaos. Menaces et ruses, bagarres et discordes, suspicions et méfiance l'envahissaient. Anna est maintenant devenue quelqu'un de redoutable, non seulement pour les autres enfants, mais aussi pour les adultes.
Que signifie donc le journal pour notre protagoniste? Voici la critique littéraire Chen Soyang qui répond à cette question.
Le titre de la nouvelle, le journal d'Anna, nous rappelle le journal d'Anne Frank, qui est le journal intime tenu par Anne Frank, une adolescente juive qui s'est cachée aux Pays-Bas pour échapper aux nazis. Elle a écrit quotidiennement tout ce qui lui arrivait. Elle dénigrait les adultes, parlait de ses premières règles et de son premier baiser. Pour elle, un journal intime était plus qu'un simple document secret, mais une documentation de sa vie courte. Il s'agissait d'une seule preuve de son existence, alors que la vie de sa famille et d'elle-même était constamment menacée. Je pense que c'est la même chose pour notre protagoniste Anna. Elle utilise son journal pour faire connaître son existence au monde et documenter sa vie. Sans ce moyen, elle n'aurait pu nouer aucune relation avec le monde extérieur. Bref, son journal intime sert de pont entre elle et les autres villageois.
Un jour, la nouvelle arrivée à l'église, sœur Agnès, a été retrouvée évanouie au couvent. La rumeur dit que la religieuse avait une écharpe de luxe autour de son corps et que sa jupe était relevée jusqu'au cuisse. Les hypothèses non fondées sont légion. Toutes les conjonctures semblent plausibles et les gens se mettent à chercher le journal d'Anna de ce jour-là. Mais étrangement, il est introuvable. Et quelques jours plus tard, un accident inattendu se produit. Anna se dirigeait vers l'église pour sonner la cloche de la messe matinale. Soudain, son vélo ne freine pas correctement et finit par se jeter contre un mur. En boitant sur sa jambe blessée, elle réussit à sonner un temps, mais la rumeur selon laquelle quelqu'un a cassé exprès le frein de son vélo commence à se répandre dans le village. Encore quelques jours plus tard, la cloche de l'église ne sonne même pas alors que la messe vient de débuter. La secrétaire court jusqu'au clocher pour trouver Anna, gisante au sol, ensanglantée.
Nous nous sommes tous précipités dans la cour au milieu de la messe. Nous avons encerclé le clocher et Anna. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi elle gisait ainsi. Ce n'est qu'après avoir vu un stylo que quelqu'un avait ramassé que nous avons pu voir plus clairement la situation. Nous avons tous levé les yeux vers le sommet du clocher. Pourquoi Anna a-t-elle dû grimper là-haut avec une cheville foulée et écrire son journal? Qu'a-t-elle donc écrit à l'intérieur de la cloche? Certains disaient que la vérité tardive sur l'affaire de sœur Agnès devait être révélée, tandis que d'autres disaient que c'était le véritable journal secret d'Anna qui devait être caché à tout le monde. La jeune fille devait chercher un endroit où elle pourrait enregistrer en toute sécurité les histoires qu'elle ne pouvait pas enfouir dans son cœur. C'est ainsi qu'elle avait trouvé le clocher et qu'elle était tombée en descendant de la tour après avoir écrit dans son journal. Peut-être voulait-elle que les secrets obscurs résonnent dans tout le village à chaque fois que le son mystérieux de la cloche se répandait.
Anna revient à l'église en fauteuil roulant un mois après avoir été opérée de sa jambe cassée. Les gens tentent de voir comment l'accident l'a changée, mais rien n'est différent, sauf qu'elle ne peut pas marcher.
Il y a cependant une chose qui a définitivement changé. Anna n'écrivait plus son journal. Nous ne savions pas si elle avait perdu son énergie ou son intérêt pour cette activité, ou si son incapacité à explorer le village due à sa blessure l'avait empêchée de rédiger. Nous avons décidé de ne pas lire ce qui était inscrit à l'intérieur de la cloche. Nous pensions que c'était notre dernier devoir de protéger les secrets de cette fille. Pour être honnête, personne n'a tenté de les lire parce que la tour était trop haute. Seul Dieu connaissait les secrets d'Anna et, comme tous les autres journaux intimes, le temps finirait par tout effacer, tout comme Anna disparaîtrait un jour de nos mémoires. Malheureusement, c'est tout ce que nous savons d'Anna. La cloche de l'église n'a plus sonné depuis lors.
Ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Chang Eun-jin, le journal d'Anna. C'était Yun Yeni au micro avec Maxime Lalo au doublage et Kim Hong-ju à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle coréenne la semaine prochaine. Au revoir!